Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et rebonjour à tous. Alors actuellement, on se trouve avec docteur Karine à l'appareil. Est-ce que vous nous entendez par hasard?
Oui, je vous entends bien.
Super. Bah du coup, je vais vous présenter quand même. Donc on a affaire du coup à docteur Karine Igartois, qui est une psychiatrique membre du comité philanthropique de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, communément appelée FMSQ. Actuellement, vous souhaitez nous parler avec nous des soutiens offerts à deux organismes de l'Estrie qui viennent en aide aux proches de personnes qui sont handicapées de la MRSC ou de la Kodiak. Et parallèlement à ça, du coup, j'aimerais commencer cette interview avec une première question qui serait pour pouvoir mettre plus au contexte et poser le cadre général des actions de la Fondation. Dites-nous, quelle est la mission de la Fondation de la FMSQ et quel est son impact sur les proches aidants au Québec?
Alors, la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes, c'est les médecins spécialistes du Québec qui mettent ensemble $1 million par année envers le soutien, le maintien, l'amélioration des ressources innovantes qui répondent aux besoins des proches aidants du réseau. Donc, c'est une fondation qui a été créée il y a une douzaine d'années et depuis ce temps-là, on a contribué plus de $13 million. On a soutenu 530 projets auprès de 194 organismes distincts partout dans le Québec qui viennent en aide aux proches aidants. Mm-hmm. Donc, la mission de la Fondation, c'est vraiment de renforcer la triade proche aidant, malade et médecin spécialiste dans le but d'améliorer l'accès aux services. Hein. On le sait que les proches aidants sont des personnes qui connaissent bien leur malade ou leur personne qu'ils aident et ils développent une expertise particulière et quand ils peuvent communiquer ce qu'ils savent de leur malade aux médecins spécialistes, ben ça améliore le diagnostic, la fluidité des rendez-vous, la pertinence des soins et évidemment tout ce qui est du soutien à domicile, du maintien à domicile. Ouais. Si on n'avait pas les proches aidants, ça coûterait à la société 4 à 10 milliards de dollars de plus. Donc c'est pour ça, les médecins spécialistes croient beaucoup à la proche aidance et à travers notre fondation, on désire les supporter.
Et vis-à-vis de ça, on remarque qu'il y a des choix qui sont apportés auprès de l'association, notamment sur des personnes handicapées de la MRSC de Coaticook et les AMO des cultures. Est-ce qu'il y a des spécificités sur ces organismes ou c'est vraiment toujours la même structure, le même process que vous mettez en place?
Bien, en fait, on s'assure d'octroyer des subventions partout au Québec. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir une présence partout. Donc ces organismes-là. Donc, là, on a la MRC de Coaticook, donc pour l'Association des personnes handicapées, et la Modiculture, qui est plus dans les environs de Magog. Deux organismes. Je vous dirais qu'on octroie des fonds tant à des organismes qui défendent des personnes handicapées que des handicaps intellectuels, aussi des démences, des troubles du spectre de l'autisme. Donc, on y va vraiment très large. Et l'idée, c'est toujours d'aider les aidants.
Mais après, ça reste une mission à la fois très vertueuse, mais aussi, j'imagine, très coûteuse. Parce que, comme vous l'expliquez, le fait des soutiens des proches, vous aidez beaucoup, notamment à minimiser les coûts. Dans cette importance, moi, j'aurais une question, c'est est-ce que vous pensez que le rôle de la Fondation va peut-être évoluer dans les prochaines années, notamment en vue de la demande croissante des services pour les proches aidants, parce que ça se fait de plus en plus, et pas que pour les maladies que vous avez étayées, malheureusement. Pensez-vous, du coup, quand même chercher une diversité dans les années qui suivent? Et à ce titre, est-ce que vous pensez qu'il y aurait des besoins plus importants qui devraient être montrés ou pas?
Oui, bien effectivement, les besoins en proche aidance ne font que grandir. On n'est pas la seule fondation en proche aidance et il y en a beaucoup qui finance le répit, mais toutes ces organisations-là ont la même observation que nous, c'est-à-dire que les demandes d'aide ne font qu'augmenter. Il y a 5 ou 6 ans, on avait de la difficulté à dépenser le million. Dans les dernières années, on a eu plutôt pour 5 millions de demandes. Ouais. Donc, malheureusement, ça veut dire qu'il faut dire non à des gens. Nous, à la Fondation, on s'est dit que la plus-value que notre Fondation avait, c'est l'accès au réseau des médecins spécialistes. Donc, effectivement, on a fait une planification stratégique et on réoriente la mission un petit peu pour vraiment y aller là où il y a une plus-value d'avoir des médecins dans l'équation. Donc, des fois, c'est une question de formation des proches aidants, mais où on sait qu'ils ont des besoins autres que simplement l'information. Il y a des besoins de sécurité financière, il y a des besoins de reconnaissance, ils ont besoin d'un soutien psychologique, soutien de la main-d'œuvre, de l'aide à la mobilité. Donc, évidemment, notre fondation ne peut pas faire tout ça. Et comme je vous dis, il y a d'autres fondations en proche aidance qui travaillent aussi. Mais effectivement, c'est un milieu où il y a de plus en plus de demandes, comme la société vieillit, évidemment, puis qu'on a de plus en plus de maladies chroniques, ben ça fait des fardeaux pour les familles.
Ben, j'imagine. Vis-à-vis, en plus, des proches aidants, ils doivent probablement faire face à plusieurs, à différents défis quotidiens, je pense. Quel type de besoins spécifiques, parce que vous en avez un peu parlé brièvement en énumérant, mais est-ce qu'on pourrait peut-être en savoir un peu plus sur les besoins spécifiques en matière de soutien psychologique, de ressources humaines ou de répit sont plus identifiés auprès de la Fondation?
Oui, tu sais, si on regarde, c'est une personne sur trois qui est proche aidant, hein. Et puis, tu sais, souvent, on pense aux personnes plus âgées avec leurs enfants qui peuvent être dans la cinquantaine, mais des fois aussi, c'est des jeunes qui sont des proches aidants, hein. Ça peut arriver que c'est quelqu'un d'âge scolaire qui a un parent qui est handicapé à la maison ou qui a un frère qui a un trouble de santé mentale. Donc, c'est un proche aidant, c'est quelqu'un qui donne de son temps de façon non professionnelle à un membre de son entourage. Et ce temps-là, ça peut être quelques heures par semaine ou par mois, mais ça peut être aussi plusieurs heures par jour. Et donc, dépendant du rôle du proche aidant, les besoins peuvent être différents, mais on peut s'imaginer que quelqu'un qui donne plusieurs heures par jour à s'occuper de son proche, ben au niveau financier, ben ça veut dire qu'il est moins disponible pour travailler pour un travail rémunérateur. Donc il y a des impacts financiers. Il y a la question de reconnaissance. Il y a beaucoup de gens qui sont proches aidants sans même se rendre compte qu'ils sont proches aidants. Et donc si ils ne se donnent pas cette étiquette-là, ben ils vont pas nécessairement penser d'aller chercher les ressources qui sont disponibles pour les proches aidants. Donc,
très
c'est important,
ça,
que les gens se reconnaissent comme proches aidants. En termes de soutien psychologique, ben quand on a quelqu'un qui est malade à la maison, ça peut être lourd. T'sais, il peut y avoir évidemment des plaisirs à aider quelqu'un qu'on aime, mais ça peut être lourd et puis il peut y avoir de l'inquiétude sur le devenir de notre proche. Et donc, ces gens-là ont besoin aussi d'avoir la permission de s'occuper d'eux. De pouvoir dire, tu sais, c'est correct que je prenne du temps pour moi. Et c'est peut-être correct aussi que je parle à d'autres proches aidants pour voir comment eux sont capables de gérer ou de composer et de normaliser que des fois, on est découragé, des fois, on est fâché, des fois, on perd patience.
Des fois, on est humain, quoi.
C'est ça, exact.
Ouais. Bah ouais, donc, ça me parle parce que j'ai pas mal fait d'animation référence avec des organismes qui essayaient de mettre en place des séjours de vacances pour des enfants qui avaient ces difficultés-là.
Ouais.
Et ouais, non, ça me parle vraiment ce que vous dites, hein, sincèrement. Je pense que même les auditeurs doivent comprendre qu'au-delà de ça, c'est pas facile tous les jours de partager les difficultés. Je pense même, moi, j'avais des enfants qui avaient de la bipolarité, donc il y avait souvent des crises qui faisaient sous le forme de choc parce qu'ils avaient, c'était trop entouré. Donc ouais, c'est sûr que c'est pas facile tous les jours et qu'un accompagnement, même une reconnaissance que vous faites, ça apporte un grand soutien, je pense. Au-delà même, simplement la reconnaissance, ça apporte déjà un très grand soutien psychologique, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez également?
Oui, effectivement, il faut reconnaître que ce qu'on fait n'est pas facile et de reconnaître que ça a une valeur, non seulement pour l'aider, mais pour la société au complet. Donc, je lève mon chapeau aux proches aidants qui vous écoutent et je leur dis bravo.
Également pour tous, à propos de ça, est-ce que vous avez... Moi, j'ai une question qui est un peu plus personnelle sur vous. Pourquoi vous avez fait ce choix de soutenir spécifiquement l'association des personnes handicapées de la MRSC de Coaticook et les Amos des cultures? Je suis désolé, je suis français, j'ai du mal avec les prononciations de ville québécoise.
Mais voilà. C'est bon, ben. Oui, ben l'Association des personnes handicapées de la MRC de Coaticook, c'est un organisme qui est là depuis 1997. C'est un organisme qui défend les droits des personnes handicapées et ceux de leur famille. Mm-hmm. C'est un organisme qui vise vraiment à maximiser le potentiel mm-hmm. de ses membres, de favoriser leur intégration dans toutes les sphères de la vie. Ils offrent des services d'écoute, d'accompagnement dans les démarches personnelles. Ils ont du matériel de sensibilisation. Ils offrent du répit. Ils offrent des activités pour leurs membres aussi. Mm-hmm. Et donc, notre appui va soutenir le salaire des personnes, les ressources humaines qui sont indispensables pour le répit hors domicile que le service offre aux proches aidants. Puis pour ce qui est de l'AMO des cultures, on leur donne 25 000 $. C'est un organisme qui a été fondé il y a 4 ans par Dr. Paul Royer, qui est un médecin de famille gériatre à l'hôpital de Magog. Cette organisation-là, elle favorise le bien-être des personnes atteintes d'un trouble cognitif. Donc, on parle de démence, on parle de d'Alzheimer, des choses comme ça. Mm-hmm. Donc, et ces services, l'organisme défend aussi les droits et l'autonomie de ses membres et, vraiment important, prévient l'isolement social parce qu'on sait, particulièrement avec le trouble cognitif, que moins il y a des interactions sociales, plus la personne dépérit rapidement. Donc, l'appartenance à la communauté, c'est super important. Donc, voilà pourquoi ces deux organismes-là.
Et c'est du coup ces points-là qui vous ont plus parlé au détriment d'autres associations? C'est ce qui a fait que votre choix s'est porté sur ces associations-là. Ou au-delà de ça, il y a aussi peut-être un attrait, on va dire, plus personnel de ce que vous êtes senti vraiment impliqué auprès de la communauté, auprès de cette communauté-là spécifiquement.
Je pourrais pas dire que c'est personnel. On est, comme je vous disais, on reçoit quand même pour 5 millions de demandes dans une année. Mmh. Donc on a une grille d'analyse très objective pour vraiment analyser les projets. On analyse la portée du projet, la plus-value. On analyse combien de personnes vont être aidées pour chaque dollar qu'on donne. Ouais. Donc, on a une grille comme ça. Comme je vous disais au début, si on s'attend.
Oui, c'est ça.
Pardon?
Ça doit être difficile, ce genre de choix.
Mais oui, parce que pour chaque personne à qui on dit oui, on a dit non 4 autres fois. Mm. Donc, il faut vraiment trouver des façons de changer la façon dont on finance et on aide ces organismes-là parce que. À continuer juste la façon dont on fonctionne en ce moment, on arrive dans un mur. Donc, il faut vraiment que la société au complet repense la prochaine danse, repense comment on supporte les gens qui supportent nos malades.
À ce titre, j'aurais une dernière question à vous poser pour mettre fin à cette interview. Ce serait, enfin, de donner des pistes concrètes auprès des auditeurs, notamment ceux qui souhaiteraient peut-être s'engager ou contribuer à ces efforts. Dites-nous comment on peut s'impliquer et soutenir les initiatives de la FMSQ et des organismes de l'Estrie notamment. Parce que comment vous pensez qu'on peut, nous dans la situation, vu que c'est la zone qui va être le plus proche auprès de Sherbrooke, comment on pourrait peut-être, pour les auditeurs intéressés, vous contacter?
Il y a plusieurs façons. La Fondation, évidemment, accepte des dons. Donc, ceux qui voudraient donner de l'argent, vous pouvez aller sur le site de la Fondation. Donc, c'est www.fondation.fmsq.org pour faire un don. C'est une façon, mais il y a plusieurs autres façons de s'impliquer. Pour les auditeurs qui seraient peut-être des patrons ou des personnes en autorité sur des employés, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit, aussi de savoir qu'un employé, ça se peut qu'il ait des demandes familiales et offrir, quand c'est possible, évidemment, une certaine flexibilité dans les heures de travail pour permettre aux gens, par exemple, d'accompagner quelqu'un vers un rendez-vous chez le médecin. Donc, il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi simplement de reconnaître et de valoriser aider les proches aidants qui sont autour de nous. Peut-être de regarder autour de nous, de voir est-ce qu'il y a un proche que je pourrais aider. Si c'est toujours ma sœur qui le fait, peut-être que je donne un petit répit à ma sœur en prenant la relève. Il y a plusieurs façons de s'impliquer. Il y a sûrement aussi des organismes locaux dans les environs de Sherbrooke. Là, je ne les connais pas par cœur, mais sûrement des organismes qui prendraient des bénévoles. Ça aussi. Okay. Donc, plusieurs façons de s'impliquer.
Plusieurs façons, que ce soit directement ou indirectement. En tout cas, merci pour ce moment. On vous souhaite à tous une agréable journée. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, il s'agit de l'association du coup FMSQ. N'oubliez pas de vous renseigner sur le site si vous êtes intéressé et suivez les bons conseils de Madame Docteur Karine. En tout cas, c'était CFAQ et on vous laisse après avec une pure courte pause.